Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot International sur RFI, bien entendu. Et nous allons commencer aujourd'hui avec l'Italie, Italia. Benvenuto, Matteo Cioffi.
Bonjour, buongiorno,
merci.
Merci de passer en chair et en os dans le studio de Radio Foot International. Vous avez bravé la neige, le vent, ouais. Le froid.
J'espérais bien vous apporter un peu de soleil, mais là je vois que... Pour l'instant, il y a un peu de soleil et c'est un soleil italien, authentique, ouais. Original.
Bon, c'est génial alors. Nous évoquerons donc votre championnat si intéressant, intéressant pour l'incertitude qu'il offre, pour la place non seulement de champion du calcio, hein, qui remportera cette compétition, la vieille dame qui jamais ne semble vieillir, ou bien la très volcanique équipe napolitaine. Suspense, pareil pour les deux autres places européennes. Trois prétendants à ce stade, les deux clubs romains et l'Inter. Et d'ailleurs, où sont passés les Milanais, les Rossoneri, Matteo, ceux que vous regardez plus particulièrement? La rencontre phare samedi en journée de Première Ligue, ce sera à Londres, un rendez-vous toujours très chaud, un derby entre Tottenham et Arsenal avec des Gunners revivifiés par leurs recrues hivernales. Aubameyang et Mkhitaryan, sera-ce suffisant pour l'emporter? Et puis le Barça de tous les records, invaincu en 22 journées de Liga, qualifié pour leur 5e finale consécutive de Coupe du Roi. Et surtout une 35e finale pour Lionel Messi, un surdoué qui aligne toujours des performances, n'est-ce pas Alejandro Valente?
Eh oui, bonjour, je vois que Rémi exulte devant vos propos, ça me fait plaisir.
Oui, ça a l'air. Rémi Nguono, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
Il y a aussi Xavier Barret pour compléter.
Et oui, bonjour Annie. Bonjour. Il ne fallait pas que les auditeurs se rassurent, je ne laisse jamais Rémi Nguono dire autant de bêtises tout seul.
Et puis nous avons notre stagiaire Clément Benchetrit que vous entendrez tout à l'heure dans Radio Foot au moment des cartons. À Radio Foot, les débats sont ouverts. L'Italie, donc, dans notre studio aujourd'hui avec Matteo, le calcio redevenu intéressant cette année, nous semble-t-il en tout cas plus intéressant, avec ce suspense en haut de tableau pour le titre, pour les places européennes aussi, même si c'est une année bien sombre pour le football italien, Matteo, cette absence de la Coupe du Monde.
Oui, c'est un choc total, on ne sait pas Rémi, on ne sait pas Rémi, non, pas lui.
Rémi.
Rémi, voilà. On est encore sous le choc de cette date qui est restée gravée dans nos mémoires, 13 novembre 2017. J'espère bien de l'oublier un jour.
En plus, mais on dit que le chiffre 13, c'est souvent pour la chance.
Oui, en plus, c'était chez moi, c'était à Milan. On est sorti.
Je vous rassure, mais la France avait une date de novembre un peu plus ancienne, 1993. Aussi des sinistres mémoires. Et puis, elle s'est bien remise, elle a gagné des Coupes du Monde et tout ça après.
Coupe du Monde, Alejandro. Pas des, malheureusement, une seule. Mais bon. En tout cas, Matteo, ce mano a mano, expression espagnol, même pour un Italien, entre Napoli et la Juventus et la Juve. Un seul point les sépare, malheur aux perdants, sans doute, dans ce championnat pour l'instant. Ils n'ont pas perdu. Personne ne sait dire qui gagnera le Scudetto en Italie, même pas vous.
Non, c'est vraiment très ouvert. C'est un duel qui fait énormément du bien à notre football, à notre calcio, on l'a dit, assez blessé. Et c'est un duel entre deux équipes qui, pour l'instant, méritent d'être à ce niveau de la compétition. Premier, deuxième, séparés seulement par un point.
La Juve, on le comprend, elle a déjà aligné 6 titres. Mais Naples, c'est vrai que depuis plusieurs saisons, essayait d'être dans cette compétition. Essayer d'être bien placé, disons, mais il y avait aussi les équipes romaines qui, on se souvient de la Roma de Rudy Garcia.
En effet. Oui, il y a eu toujours des face-à-face dans ces dernières saisons en Italie, mais on arrivait à la fin de la première partie du championnat et ces face-à-face n'existaient plus parce que la Juve avait décidé de mettre la cinquième, comme on dit, quand on est à l'intérieur d'une voiture et il restait seulement la Juve.
Une voiture Fiat.
Là, on est déjà arrivé quoi, à la troisième, au troisième match de retour. Naples est toujours premier. La Juve est là. Tout dépendra de, à mon avis, de ce qui se passera en Ligue des Champions, parce que n'oublions pas que la Ligue des Champions est pour la Juve l'objectif prioritaire. Mm-hmm. Faut pas se cacher. Ils
après
l'ont toujours
dit. Après deux finales perdues.
Voilà. Après deux finales perdues en trois ans, ce qui fait énormément du mal à ces clubs. Ils veulent gagner la Ligue des Champions cette année. Ça va être dur. Et il faudra voir où l'équipe réussira.
On va en parler de leur confrontation en Ligue des Champions la semaine prochaine. Mais pour l'instant, on se demandait, dans ce face-à-face, dans ce mano-à-mano, les Italiens, ils sont plutôt...
Non entra mai la seconda, e anche un po' sfonda, e pure la salita, neanche comincia a scommettere.
Alors, ou plutôt ce rythme-là.
Che bella cosa, è una giornata sola, è l'aria serena per la tempesta.
Alors Matteo, c'est quoi plutôt l'usine Fiat, hein, la Fiat Cinque, Cinque, c'est ça, la Fiat 500?
500, oui.
C'est ou alors plutôt le soleil de la baie de Naples.
Bah écoutez,
Annie, est-ce que tu sais que c'est avec cette chanson que j'ai procédé à l'ouverture, à la coupure de mon gâteau de mariage?
Mais
c'était
alors,
interprété
mais oui, j'y
par
étais.
Alors, Xavier Barret y était avec Mbia qui a fait l'opéra. Qui...
Oui, oui, ça veut dire que vous êtes pour Naples.
Ah, bien sûr, je suis pour Naples. Moi, je suis pour Naples. Et d'ailleurs,
alors, attendez, je voulais savoir auprès des Italiens, quelle est l'équipe la plus populaire en Italie en ce moment de ces deux-là?
En ce moment, depuis toujours, c'est la Juve. La Juve divise un pays, on l'aime et on la déteste en même temps. Ça veut dire que 50% des Italiens l'aiment, le reste la déteste carrément. Et pour ce qui concerne ces défis, c'est vrai, même si on n'est pas supporteur de Naples, on peut pas ne pas être à côté de cette équipe. Parce que, bon, tout d'abord, la Juve a déjà gagné 6 Scudetto d'affilée. Naples, ça fait quoi, 28 ans qu'ils n'arrivent pas à gagner un titre.
Depuis,
comment dire?
Depuis Maradona.
Ouais, ils sont même descendus voilà. En troisième division entre-temps. Hein, ils sont remontés. Et moi, je dois avouer, pour avoir commenté les matchs de Coupe d'Italie sur Eurosport, que cette équipe napolitaine, même si en Coupe d'Italie elle s'est fait éliminer, elle pratique quand même un football extrêmement séduisant. Mais ils n'ont pas de banc. C'est-à-dire que cet automne, ils se sont retrouvés engagés en Ligue des Champions, le championnat, la Coupe d'Italie, donc dont ils ont été éliminés, la Ligue des Champions, ils sont reversés en Europa League. Et en fait, vous apercevez que dès qu'il y a un ou deux blessés, eh bien, c'est difficile pour Maurizio Sarri de faire une équipe compétitive. Et c'est ça le principal enjeu de cette deuxième partie de saison. Et je crois que, d'ailleurs, Matteo l'a très bien expliqué, c'est que la Juve, elle, a un autre objectif qui est la Ligue des Champions. Donc, ils jouent sur deux tableaux, alors que Naples, ils ont maintenant qu'un seul objectif, c'est le championnat.
Bon, mais si toute l'Italie ou une grande partie est derrière Naples, ça peut peut-être les aider. C'est votre équipe de cœur, Rémi?
Bien sûr, depuis Maradona, puisque oui, depuis Maradona, qui est le meilleur joueur argentin de tous les temps et qui n'aura jamais de concurrent. Donc, j'ai toujours apprécié, oui, Naples, tout. Et maintenant, on se rend compte que Naples, contrairement aux autres années, est beaucoup plus une équipe structurée, bien organisée. Et quand vous essayez de regarder aujourd'hui, c'est-à-dire que la Juve gagnait souvent ses titres en se basant sur un socle défensif hors norme. Or, actuellement, c'est Naples qui a la meilleure défense. Ils ont encaissé 14 buts. C'est ce qui veut dire que quelque chose est quand même assez consistant. Et bien sûr, quand vous essayez de regarder sur le plan offensif, ce n'est pas exactement ce que Xavier Barret peut dire, que bon, quand un se blesse et tout et tout et tout. C'est une équipe qui se complète même au niveau de l'attaque, certes. Ils ont marqué moins que la Juve parce qu'ils ont quand même marqué 50 buts. Mais c'est une équipe qui a la troisième attaque et qui peut bien se faire. Mais par contre, quand on me parle de la Juve, moi je peux vous dire que la Juve, qui prétend remporter une Ligue des Champions alors qu'elle avait une superbe équipe à une certaine période et qu'elle a perdu ces éléments-là, c'est-à-dire que vous n'avez plus des gens comme les Barzagli ou Bonucci, et après vous vous dites que vous allez remporter une coupe,
Barzagli,
une Ligue des
Champions. Encore, hein.
Barzagli, mais attends, il est au banc, hein, Barzagli, là. Il est au banc.
Il a 35 c'est des cycles.
Voilà, il est au banc. Mais, et quand vous essayez de regarder aussi la Juve n'a pas véritablement quelqu'un qui remplace actuellement Dybala. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même se dire que Dybala Voilà, n'est pas là. Et quand on voit Higuain, même s'il a marqué 3 buts contre Sassuolo, ça ne fait que ses 13 buts. Alors que, par exemple, vous allez voir que ce soit Immobile, ils sont à 20 buts et tout. Donc, Higuain n'est plus Higuain qu'il était. Moi, je trouve que vraiment, la Juve, ça continue à être ce que c'était, mais c'est juste non.
Moins bien. En tout cas, il aime les Argentins.
Il a sorti la moitié de l'équipe d'Argentine.
Oui, la deuxième partie de l'émission, quand on va parler de Messi, va être dithyrambique. On va plus l'arrêter.
Certainement. Réfé, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces deux équipes italiennes et qui voyez-vous finalement tenir sur la longueur?
Je pense que Naples a une belle carte à jouer parce que c'est vrai, comme on le disait, la Juventus, maintenant que la Ligue des Champions commence, pour peu qu'ils ne soient pas éliminés par Tottenham très vite, ils vont forcément y laisser beaucoup d'énergie dans cette Ligue des Champions et Naples pourra en profiter. La Juve aurait dû prendre un peu ses distances avant. Maintenant, c'est un peu tard et je pense qu'effectivement, pour Naples, il y a une belle carte à jouer.
Il y a quand même un élément important, et là je parle sous la coupe de Matteo, c'est que la Juve a gagné à Naples. 1-0 lors du choc du championnat, alors que Naples était, je crois, sur une série d'invincibilité assez incroyable. Et donc, la Juve a gagné à Naples. Et donc, le match retour, qui peut être décisif pour ce titre, puisqu'il n'y a qu'un point d'écart entre les deux, aura donc lieu à Turin. Bien sûr, d'ici là, il peut se passer plein de choses. Mais pour le moment, il y a quand même un petit avantage psychologique pour la Juventus.
Est-ce qu'en Italie, on voit dans la presse, vos confrères, les journaux italiens, imaginent que ce ne serait pas la Juve cette année qui serait championne?
Je l'ai dit avant, c'est difficile de ne pas être à côté de Naples. Donc aussi l'opinion publique reflète un peu ce sentiment qui appartient à la moitié des Italiens.
Un peu l'alternance.
Oui, en effet, on a besoin d'alternance, ça rend les choses encore plus passionnantes. Mais si vous lisez bien les journaux, il souligne une chose, Naples fait du beau jeu. Et ça, c'est à mon avis un élément qui pourrait être très significatif dans la lutte finale. La Juve, cette année, on l'a vu plusieurs fois avoir quelques problèmes de collectif. C'est vrai, l'absence de Dybala est une absence qui, pour l'instant, est difficile
à remplacer.
La Juve a misé beaucoup sur Bernardeschi, qui est un des majeurs talents italiens, mais qui n'a pas encore la puissance technique et la qualité de Paul Dybala.
Il y a quand même.
Mais on y croit. La presse croit que Naples peut gagner ce scudetto, absolument.
Oui. Mm-hmm. Oui, c'est vrai qu'il y a un phénomène un peu de lassitude autour des succès de la Juventus, puisque ça fait 6 ans de suite qu'ils sont champions, mais ils ont un tel savoir-faire, une telle avance sur les autres clubs au niveau de la structure, le stade, toute la façon, l'entraîneur. C'est certain que si Naples y arrivait, ce serait magnifique, ce serait d'abord historique, parce que ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus été champions, mais surtout, ça montrerait que la Juve n'est pas infaillible dans son territoire. Or, on se rend compte qu'aujourd'hui en Europe, on a dans un certain nombre de championnats des clubs qui sont indétrônables. Le Paris Saint-Germain en France, même s'ils n'ont pas été champions la saison dernière. Le Bayern de Munich en Allemagne et la Juventus en Italie. Et donc, ce serait un peu une chute, quelque part un heureux événement pour la Serie A que la Juve ne soit pas championne, parce que ça voudrait dire qu'il y a quand même un enjeu dans ce championnat.
Moi, ce que j'ai du mal à comprendre dans ces duels à deux, c'est qu'ils ne soient que deux, alors que début décembre, on avait l'Inter qui était quand même au top. Qu'est-ce s'est-il passé? Comment peut-on expliquer que l'Inter, ça fait 8 matchs, je crois.
Ils ont même occupé la première place pendant.
Mais on ne peut pas dire qu'ils soient deux, hein, parce qu'il y a la Lazio Roma actuellement.
Enfin, il est à 14 points quand même.
Ah oui, mais attends, la Lazio n'est qu'à 4 points, il ne faut pas quand même dire que.
Elle est à 13 points de la Juventus.
On va apprendre à compter à Rémi.
Oui, mais.
Non, il y a 13 points.
Les statistiques sont si fausses.
Donc on en a 2 et après on en a 3. Justement, venons-en à l'Inter, parce que justement, il y a 4 places, on le sait, en Italie pour les places de Ligue des Champions l'année prochaine. Et nous avons 3 équipes qui pourraient prétendre à cette place, qui se sont détachées elles aussi dans le championnat. La Lazio, l'Inter et la Roma.
Oui, si vous imaginez, Alejandro l'a dit tout à l'heure, il y a seulement 2 mois, ces 3 équipes que vous venez de nommer étaient en pleine course pour le Scudetto. Puis surtout, la Roma et l'Inter sont entrés dans un tunnel où pour l'instant, ils n'arrivent pas à en sortir. Parce que
spirale négative, on dit en français, Matteo.
Exactement. L'Inter, 8 matchs sans aucune victoire en championnat et avec 2 matchs de Coupe d'Italie où ils n'ont pas gagné. Donc, 10 matchs sans victoire. Ça veut dire quelque chose dans cette équipe à...
C'est cassé.
C'est cassé.
Et c'est sûr. Quoi et c'est dans le vestiaire, c'est l'entraîneur, c'est...
Bah, certainement, disons, on sait très bien que le rapport entre certains joueurs n'est pas au top. Le capitaine Icardi a eu quelque chose à dire au duo de Croates, Perisic, Brozovic. Il y a plus cette entente qu'on avait vue surtout dans les premiers mois. Mais c'est vrai aussi que l'Inter, au début de cette saison, arrivait à gagner ses matchs.
C'était pas terrible, hein, quand même.
C'était pas terrible. Mmh. Toujours de justesse, 1-0.
Souvent un but d'Icardi.
D'Icardi. On s'amusait pas à regarder cet Inter. Et on le sentait que quelque chose pouvait se passer. Tout au contraire de la Roma. La Roma avait commencé une saison avec un football qui, à mon avis, était vraiment remarquable. Même meilleur de celui de Naples. Et puis là, tout à coup, Di Francesco a perdu un peu le contrôle de l'équipe. C'est vrai que tout ce qui s'est passé dans le mercato, les rumeurs qui ont tourné autour de cette équipe avec Dzeko qui devait quitter Rome, pour aller au Chelsea, et à la fin il est resté, non, puis il voulait s'en aller, puis il voulait rester. Ça a pas fait du bien, et on le sait bien, à Rome, l'équilibre, mental, passez-moi le terme,
psychologique,
est très, très délicat.
Rémi,
je crois moins que Xavier Barré ne va plus discuter que Mourinho était un grand entraîneur parce que depuis le départ de Mourinho qui a quand même eu à faire un triplé avec cet Inter là, on a beau remplacer les entraîneurs, on a beau ajouter des joueurs, on a beau donner de l'argent et tout, mais on se rend compte que le José Mourinho qui depuis qu'il est parti, cette équipe est totalement dans l'eau. C'est Mourinho qui faisait cette force-là, tout même que.
Mais non, ils avaient été champions avant avec Mancini.
Eu ce triplé-là, tout comme exactement. Je dis bien que lorsque vous essayez de regarder cet AS Milan là, la dernière fois qu'ils ont par exemple eu à gagner un championnat d'hiver, je crois que c'était en 2011 et finalement, qu'est-ce que ça devient après? C'est rien du tout. C'est-à-dire que ce soit.
Est-ce que vous gardez des grands souvenirs de l'Inter de Mourinho.
Mais moi, je retiens une chose, c'est que c'est des titres qu'on veut et c'est une équipe qui gagnait à 10 contre 11 et qui pouvait battre le Barça. Donc, mais c'est mieux valait ce bus-là que maintenant vous avez des autocars.
Je crois pas,
des autocars en aluminium ou en bambou qui finissent toujours dans le ravin. Donc, moi, à une certaine période, avec Mourinho et son bus, c'était bien. Et quand je vois aujourd'hui l'équipe d'Inter qui a carrément perdu cet ADN, cette équipe qui se fait malmener totalement comme un essaim de mouche, j'ai dit mieux valait encore qu'on comprenne aujourd'hui que Mourinho reste le roi, le dieu du trône.
Matteo, on a vu une déclaration de Chiellini ces derniers jours, très intéressante. Alors, il ne faisait pas allusion à Mourinho, il faisait allusion à Pep Guardiola, en disant, à cause de Pep Guardiola, les défenseurs italiens ont perdu leur style et leur philosophie.
Eh ben oui, parce que le tiki-taka a mis en difficulté le Catenaccio. C'est deux philosophies complètement opposées de faire du football, donc il le disait pour cette raison. Chiellini a aussi ajouté une chose qui, à mon avis, est la chose la plus intéressante. Il a dit, je vais pas regarder le championnat du monde cet été, donc je suis complètement à son côté.
La Coupe
on
du
va
monde.
Pas regarder le championnat du monde.
La Coupe du monde.
Ouais, la Coupe du monde, et on va se dédier à autre chose. On a la mer, on a le soleil.
Il y a un élément important, on n'a pas trop le temps d'en parler maintenant, mais c'est que la Serie A nous intéresse parce qu'il y a du suspense, mais si vous regardez les équipes de ce championnat, il n'y a plus de joueurs italiens. italiens dedans. Et ça explique en partie l'échec de l'équipe nationale. À Naples, il y en a un. À la Juve, il y en a deux ou trois. Il n'y a même pas de quoi faire une sélection.
Et oui, c'est pour ça que les Italiens, malheureusement, vont regarder la Coupe du Monde un peu de loin, Matteo. Peut-être que vous vous irez sur place, mais en tout cas, la sélection, la Squadra Azzurra, pas vraiment. On se retrouve juste après la pause. On marque une mi-temps dans Radio Foot International. Et ensuite, on se retrouvera. On évoquera eh bien, ce Tottenham Juventus, quand même, qui se profile mardi prochain.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de Radio Foot International, toujours sur RFI avec Rémi Ngono, Xavier Barré, Alejandro Valente, Matteo Cioffi et avec Clément Benchetrit. Nous allons continuer donc dans cette émission. On parlait de football italien. Prolongeons un petit peu cette discussion, Matteo. Tottenham, Juventus, huitième de finale de Ligue des Champions. Le tirage au sort a donc mis ces deux équipes face à face et elles joueront leur premier match en Angleterre. Vous le disiez, l'objectif de la Juve, c'est la Ligue des Champions. Il va falloir faire avec Tottenham. On a vu Tottenham très fort dans son groupe.
Match en Italie, non ? Match retour en Angleterre.
Obstacle, à mon avis, extrêmement dur pour les Bianconeri. Ça va vraiment être chaud avec Tottenham. Ça va brûler. Ce sera un match, à mon avis. On se regardera à le regarder parce que oui, on le répète.
C'est
l'objectif de la Juve, c'est celui de gagner. Mais il voulait pas jouer avec Tottenham. Allegri l'avait dit lors du tirage. À partir de là, il n'a plus voulu parler de Tottenham auprès des journalistes. Il a dit laissez-moi me concentrer sur le championnat parce que il craint Tottenham. Tottenham c'est une équipe qui joue en rapidité. Ils ont ce Eriksen. Voilà, la presse italienne s'est intéressée beaucoup à ce joueur-là qu'on, honnêtement, jusqu'à l'année passée, on connaissait pas trop. C'est Eriksen qui commence à faire peur. Harry Kane, on le connaît déjà, on en a déjà parlé, donc c'est pas une nouveauté. Et c'est là pour dire que pour les Bianconeri, ça va chauffer.
Fut une époque où les talents danois, Michael Laudrup par exemple, allaient à la Juventus. Maintenant, ils vont en Angleterre.
Ah oui. Alejandro.
Bah oui, je comprends qu'ils soient inquiets parce que je pense que qu'effectivement ça va être bien compliqué pour la Juventus, pour Tottenham qui a l'avantage donc de jouer ses matchs retour, même si c'est pas dans son vieux stade mais à Wembley, ce sera vraiment un beau défi et je trouve que la Juve est un peu affaiblie. Là, ils ont perdu aussi Matuidi. Enfin, je les sens pas. C'est sympa trop.
Alors Tottenham, eh bien ils sont au premier plan pour ce qui est de la Première Ligue durant le week-end parce que lors de cette 27e journée, le premier match d'ouverture ce sera samedi à 13h30 heure de Paris, c'est ce derby londonien entre Spurs et Gunners, une rencontre finalement entre deux équipes qui se suivent au classement hein, ne l'oublions pas, 4 points seulement les séparent et deux équipes qui sont surtout sur une dynamique très différente puisque du côté des Spurs, on a 3 nuls pour 2 victoires en 5 matchs, alors que du côté des Gunners, on avait 2 défaites et 1 nul pour aussi 2 victoires, dont la dernière. Écoutons d'abord Moussa Sissoko évoquer ce rendez-vous de samedi.
Dimanche, ça va être un tout autre match, un derby, un match très attendu par tout le monde et nous aussi. Donc, on joue à domicile devant notre public, on va tout mettre en œuvre pour gagner ce match. Parce qu'on a les qualités pour et on veut finir très fort la fin de championnat. Et voilà, ça va passer par une grosse performance dimanche avec une victoire au bout.
Alors très fort dimanche, hein, bien entendu. Très fort pour rester dans ce big four. Face à eux, eh bien, des Gunners légèrement revigorés, rajeunis peut-être. On a surtout reboosté l'effectif avec 2 recrutements, Pierre-Emerick Aubameyang et Mkhitaryan.
C'est dur à prononcer.
Oui, surtout dur à écrire, je dirais même presque.
En tout cas,
oui, je parle pas encore arménien, alors je vais le dire à la française, c'est déjà assez compliqué. En tout cas, écoutons Arsène Wenger. Arsène Wenger parlait de l'intégration de Aubameyang qui, lors du premier match, a déjà marqué.
Ça donne toujours un nouvel espoir quand de nouveaux joueurs arrivent avec leur talent. Mais le plus important, ce sera la performance de l'équipe. La première expérience de Mkhitaryan face à Swansea n'était pas très bonne. Mais après, contre Everton, c'était très positif. Et ce que nous voulons, avoir une histoire positive. Au départ, ces arrivées vous donnent comme un coup de fouet. Mais ça doit être maintenu par des performances individuelles et par les résultats de l'équipe.
On a un nouveau traducteur aujourd'hui, vous avez entendu, hein, Clément, ouais, bravo.
Arsène Wenger n'a pas son accent habituel.
Exactement. Alors, Arsène Wenger, est-il trop prudent? Ose-t-il peut-être aussi rêver? Ils sont sixième, et évidemment, le but, les autres sont cinquième, c'est d'intégrer le fameux Big Four.
Mais évidemment, puisqu'il n'y a que les quatre premiers qui iront en Ligue des Champions la saison prochaine, et pour la première fois depuis 21 ans, ils n'y sont pas cette saison en Ligue des Champions. Donc, il veut y revenir.
Alors,
il a deux moyens d'y revenir. Gagner l'Europa League. Donc ils sont en 16e de finale, ça mais bon, il y a encore beaucoup de matchs, et puis sinon accrocher
la qui des, sourit en vous regardant.
Une des quatre premières places. Je comprends qu'il sourit parce qu'en fait, c'est ce qu'a fait Mourinho la saison dernière. On peut rappeler que Mourinho avait été décroché avec Manchester United, ils ont terminé seulement 6e du championnat.
Pas de quelqu'un qui gagne souvent
il a gagné et puis ils ont gagné l'Europa League, ils ont même gagné la Ligue en passant et l'Europa League, la Ligue Europa, Annie, vous avez raison. Et donc, Rémy Ngono disait que c'était une saison formidable pour José Mourinho avec Manchester United. Et cette saison, eh bien, il dit que c'est pas bien si Arsène Wenger fait la même chose.
Alejandro.
Bah, moi, je trouve qu'il est prudent parce que il a une vraie carte à jouer. Il y a beaucoup d'avantages dans son jeu. Tottenham a déjà dû jouer cette semaine un match à rejouer en Coupe d'Angleterre. Ils doivent jouer contre la Juventus mardi, donc c'est une équipe qui ne sera pas à 100% alors qu'Arsenal peut l'être. Vous parliez d'Aubameyang, quand même Aubameyang a fait du mal dans le passé à Tottenham, donc c'est quelqu'un qui rappelle des mauvais souvenirs à l'équipe de Pochettino. Et puis ce match ne va pas se jouer dans le vieux stade de Tottenham mais à Wembley. Ça fait, je sais pas, des décennies qu'on n'a pas eu ce derby à Wembley. Et c'est un stade qui sourit souvent à Arsenal. Donc je pense que tous ces arguments plaident en faveur d'une surprise dans ce match.
Rémy,
Je suis toujours surpris parce que quand on arrive ici, on ne trouve que des avantages. Et cependant, on ne regarde pas aussi tout ce qu'il y a comme statistique. Arsenal, depuis le début de la saison, a remporté 36 points. C'était à domicile. Mais à l'extérieur, c'est-à-dire que Arsenal est à 1,3
points. Mais Rémy, depuis le début de saison, ça ne vous aura pas échappé. Ils ont changé l'effectif. Et quand même beaucoup changé.
Je voulais vous dire que Arsenal change l'effectif depuis pratiquement 21 ans. Et sachez également que Aubameyang n'est pas le premier attaquant à débarquer à Arsenal avec autant de fleurs et autant d'espoir. Rappelez-vous quand même, lorsque Ekid Feyenoord, celui qu'on appelle Van Persie, il arrive à Arsenal et finalement, qu'est-ce qu'il est devenu? Rien du tout. Rappelez-vous quand même qu'Alexis Sanchez...
Si, il a juste été le meilleur buteur.
Mais attendez, ils ont remporté quoi? Rien du tout.
Il était quand même le meilleur buteur.
Oui, mais ils n'ont rien remporté. Nous sommes là pour vous dire comment est-ce qu'Arsène Wenger utilise ses joueurs. Rappelez-vous quand même que Alexandre Lacazette, qui quittait aussi la France, est un meilleur buteur et qu'actuellement, il est totalement fini à Arsenal. Rappelez-vous quand même que Alexis Sanchez, à peine il quitte Arsenal, il devient actuellement dans l'équipe type d'Angleterre. Il a été classé, positionné. Oui, bon. Donc, à une certaine période, quels que soient les joueurs qu'on donne à Arsène Wenger, ils deviennent nuls. Donc, moi, à une certaine période, j'ai dit que non. C'est le problème. On va me dire
vous ne remontez pas à nous parler de Thierry Henry ou de Bercap.
Attendez, vous allez me dire que c'est parce qu'il y a un petit Ariane, parce qu'il y a ceci. Et il y a eu les Fabregas, il y a eu tout le monde qui a déjà été à Arsenal, mais on n'a jamais eu une bonne chose. Donc, pratiquement, avec Arsenal et avec Arsène Wenger, je vais utiliser un proverbe africain qui dit que vous avez beau donner n'importe quelle pierre à un mauvais maçon, il ne construira jamais une bonne maison.
Mathéo.
Et j'en profite pour lancer un petit message à Patrick Aubameyang. S'il s'ennuie à Londres.
Pierre-Emerick.
S'il s'ennuie à Londres, il peut retourner à Milan. On l'attend, hein.
C'est la fête.
Vous savez bien que Aubameyang a commencé à jouer à Milan à 16 ans.
On ne sait pas pour aller à Milan à ce moment.
Voilà. Et quand ils l'ont regardé jouer, ils ont dit non, il est nul.
Il y a un élément important quand même pour répondre à Rémy Ngono. C'est que Mrick Mkhitaryan, lors de ce match contre Everton, il fait 3 passes décisives. C'est le premier joueur d'Arsenal à faire 3 passes décisives pour ses débuts en Première Ligue sous le maillot des Gunners depuis Santi Cazorla en 2013. Donc c'est significatif.
Ces deux joueurs.
Voilà. Donc c'est très important. Ils se connaissent. Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, c'est seulement le 8e joueur de l'histoire d'Arsenal en Première Ligue. Donc depuis 1992. 12. C'est seulement le 8e joueur à marquer dès son premier match. Donc on voit qu'effectivement ce duo fonctionne bien parce qu'effectivement ils se connaissent, ils ont joué à Dortmund ensemble, c'est d'ailleurs le thème, un des thèmes de l'émission du 11 d'Europe sur Canal Plus Sport tout à l'heure, parce qu'il y a effectivement cette complicité qui existe. Et le coup de génie de Wenger et de son équipe, ça a été de les faire venir tous les deux, Aubameyang et Mkhitaryan, pour que tout de suite ils soient opérationnels, et du coup cette équipe d'Arsenal, elle va pouvoir jouer un rôle important sur la fin de saison.
Non, Rémi, trois mots.
Juste pour vous dire que par rapport aux statistiques, quand Mesut Ozil arrive, il est le premier joueur d'Arsenal à faire, bien évidemment, en première partie de saison, 19 passes décisives. Donc les joueurs qui arrivent à Arsenal commencent toujours très très bien et finissent toujours très très mal.
Et ben alors on verra pendant le match de dimanche, ça sera peut-être très important qu'il commence très très bien. À noter que Riyad Mahrez, dont on parlait hier, notamment avec Nabil Djellit, eh bien est de retour à l'entraînement. Aujourd'hui, l'international algérien des Foxes de Leicester donc ne boude plus et sera, qui sait, peut-être présent à Manchester pour le match contre les Citizens. Rien n'arrête plus le Barça. Même le départ fracassant de Neymar au cours de l'été dernier, cela n'a pas détourné l'équipe de ses ambitions. Bien loin de là, voilà des Blaugrana à 22 journées sans faillir, sans défaillir, surtout aucune défaite à ce jour pour Messi, Suarez, Piqué et leurs camarades. Et plus, ils disputeront ces prochains jours la finale de la Copa del Rey, comme tous les ans depuis 2014, un record pour le Barcelone qui est triple tenant du titre, hein, puisqu'ils ont gagné les dernières fois. Ils se retrouveront face au FC Séville, une finale d'ailleurs où ils rencontreront une équipe entraînée par un Italien, Matteo.
Oui, Vincenzo Montella, quelqu'un qui peut-être n'a pas eu une grosse chance à l'AC Milan.
Il a été viré en début de saison.
Il a été viré il y a 2 mois pour laisser sa place à Gennaro Gattuso. Bon,
finalement, c'est
ça,
plutôt
pas, pas beaucoup mieux pour Séville, même si c'est en finale.
Bon. En tout cas, dans cet effectif, bien sûr, il y a un personnage qui s'appelle Lionel Messi et il va disputer sa 35e finale de sa carrière après avoir marqué un but contre la Real Sociedad au cours du week-end. Il est devenu le meilleur buteur des 5 principaux championnats européens. Il a marqué 366 buts en 401 matchs. C'était un record de Gerd Müller. Alors jusqu'où ira-t-il Messi, Alejandro Valente, jusqu'à Moscou?
Ah bah c'est ce que tout le monde espère, hein. Je pense
tout le monde,
que,
enfin vous.
Enfin tout le monde, tous ceux qui l'aiment espèrent en tout cas. Évidemment, il a rendez-vous le 15 juillet au stade de Luzhniki, qu'il a déjà foulé récemment. Mais en attendant, il a d'autres objectifs, hein. Le triplé avec Barcelone.
On serait sur les réseaux sociaux, on mettrait plein de cœurs qui partiraient au-dessus d'Alejandro Valente.
Bah, vous mettez dans une perche, que vous voulez que je dise.
Rémi, qu'est-ce que vous ajouteriez?
Je suis d'abord surpris par rapport à ce titre de meilleur buteur de tous les championnats. Lorsque j'essaie de regarder.
Mais ce sont des statistiques, Rémi, vous aimez
les
ça?
Les statistiques, c'est que Ronaldo, lorsque vous le prenez, puisqu'il a joué quand même à Manchester United, il a joué, vous n'allez pas éliminer Manchester United. Il a joué à Manchester United et à Barça, ce qui signifie qu'il est très loin devant Messi. Oui, totalisé, bien évidemment. Oui, c'est comme ça. Mais si vous êtes né dans une même maison et vous continuez à jouer dans la même maison, vous allez dire que c'est là où vous êtes le meilleur. Mais le problème, c'est que Ronaldo a marqué à Manchester United et n'a pas autant de temps.
Non, mais il est le meilleur buteur ayant inscrit en jouant dans les 5 championnats.
Dans un seul club. Dans un seul club.
En l'occurrence. Il aurait pu marquer en Espagne, au Portugal ou ailleurs.
Si les buts marquent à Manchester United.
Rémi, décidément, n'admirera jamais Messi.
Alors, deuxième des choses, à ce que moi je sache, je vois quand même que non. Il fait une bonne saison. Je constate qu'il est plus égoïste maintenant par rapport à ce qu'on disait. Ah oui, attends, lorsque en 2012, 2013, 2014, Messi fait quand même 68 passes par match. Cette fois-ci, il a 44 passes par match maximum.
Vous avez remarqué que la tactique à Barcelone,
pour vous dire donc que ce Messi-là, et bien évidemment, comme aussi il marquait 46% des buts du Barça aujourd'hui, on se rend compte qu'il se les partage avec Suarez, mais bon. De toutes les façons, une chose est bien, c'est que Messi de l'année dernière n'était pas mieux que Messi de cette année et qui est beaucoup plus percutant il faudrait plus décisif, qui est beaucoup plus.
Il faudrait Annie repasser les bandes des émissions de début de saison. Là, quand on s'est retrouvé après les vacances au mois d'août et en septembre, on entendait Rémy Ngono dire que de toute façon Messi était fini, que le Barça était à la rue, que
sans Neymar, que
l'époque Blaugrana, le règne du Blaugrana sur l'Europe, c'était du passé. Et qu'est-ce qu'on voit? Le Barça qui se balade en tête de la Liga, le Barça qui est en huitième de finale de la Ligue des Champions
et
avec
qui a gagné
un beau rendez-vous contre Chelsea, le Barça qui est en finale de la Coupe d'Espagne pour la cinquième fois d'affilée, ce qui n'a jamais été réalisé par le passé,
c'est...
non
mais
cinq
c'est
cinq fois d'affilée,
mais
c'est un record.
Il y a des
performances qui ne se discutent pas, mais non, Rémy Ngono il trouve le moyen de pinailler pour dire que il avait un cheveu de travers.
Ce monsieur a pinaillé pour les records de Zinedine Zidane qui gagne les Ligues des Champions, qui gagne les Coupes du Monde des clubs, qui gagne ceci. Et il me parle d'une Coupe du Village, qu'une équipe. Mais attendez, vous êtes des indépendantistes, vous êtes là en train de dire que nous.
Je vous demande de vous arrêter.
Vous voulez seulement gagner une Coupe du Roi, mais il y a un proverbe africain qui dit que tu ne peux pas détester la vache et tu veux toujours boire son lait.
En tout cas, les Barcelonais, Alejandro, il n'y a pas que les Gunners qui se sont renforcés. Il y a aussi le FC Barcelone, Felipe Coutinho. Et hier, gros événement pour Coutinho.
Ojo Suárez con el desborde, el pase para Coutinho. Gol. El primero de Coutinho para el Barça. El primero con la camiseta azulgrana. Llega en Mestalla para poner un poquito más cerca de su quinta final consecutiva de la Copa del Rey.
Et le voilà, Felipe Coutinho, le Brésilien qui a donc marqué son premier but. Alejandro, est-ce qu'il s'est déjà glissé dans la philosophie Blaugrana?
Oui, on a été surpris de voir avec quelle facilité il a trouvé ses marques dans sa nouvelle équipe. C'est sûr qu'il doit encore gagner en automatisme, etc. Mais c'est un joueur qui a l'ADN parfait pour évoluer à Barcelone. Tout le monde en plus l'a bien accueilli. Tout le monde avait envie qu'il marque rapidement pour s'enlever un petit peu cette pression, et Suarez lui a offert une très jolie occasion qu'il n'a pas laissé passer. Déjà le week-end dernier, il avait frappé sur le poteau, enfin sur la barre, et donc on sentait que ça allait venir. Et il y a même Yerry Mina, qui est l'autre recrue de Barcelone, beaucoup moins connu, un défenseur colombien, qui a pu jouer ses premières minutes hier soir, puisqu'il a remplacé Piqué en fin de match.
Avec Samuel Umtiti en charnière.
Et voilà, donc la recrue, et nous verrons comment évoluent ces Blaugrana.
On peut signaler une chose, El Jefe disait que c'était sur une passe de Luis Suarez, et ce qui est amusant, c'est que le premier but de Philippe Coutinho à Liverpool, à l'époque, il a été marqué sur une passe de Luis Suarez. Donc on voit qu'il y a vraiment déjà des connexions qui se refont entre deux joueurs qui ont évolué ensemble.
Ils se retrouvent parce qu'effectivement, ils étaient ensemble du côté de Liverpool. Et nous sommes à J-6 de la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est le jour de Real Madrid-Paris-Saint-Germain. Une confrontation ô combien importante, essentielle même pour les deux clubs, pour les deux équipes et pour leurs deux entraîneurs. Un huitième de finale à multiples enjeux. Mais comment se prépare-t-on pour ce match? Quel choix est-ce que durant le week-end, alors que chaque équipe va jouer, l'une face à la Real Sociedad et l'autre face à Toulouse, est-ce que on verra déjà quelque chose de la part des entraîneurs? Écoutons Zinedine Zidane s'exprimer à ce sujet.
J'ai pas besoin d'être rassuré, en fait. Ce qu'on a besoin, c'est juste de faire ce qu'on sait faire. Voilà. Et juste essayer de le faire 90 minutes. En fait, le match de demain, c'est un match de championnat, c'est un match important pour nous, c'est un match parce qu'en fait, on a envie de continuer à exister dans ce championnat, de toute façon. Donc nous, on a juste envie de continuer et d'essayer de se rapprocher de toute façon du haut du tableau. Et sans penser à mercredi, parce qu'on sait, enfin, mercredi, il se passera ce qui se passera, et on aura le temps de parler de ce match mercredi. Et après, la semaine, elle s'est bien passée, parce qu'on a pu travailler encore une fois, pour tout ce qu'on va mettre de toute façon en œuvre sur le terrain.
Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y, fonce. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Ça fait sourire Rémy quand même. On a réussi, Guillaume, à faire sourire Rémy. Rémy, quand Zidane dit « j'ai pas besoin d'être rassuré », est-ce que vraiment, alors que finalement les résultats de son équipe actuellement, on est tous à les observer, sont un peu, je vais être gentil, un peu en dents de scie?
Oui, c'est une équipe, lorsqu'on essaie de regarder des résultats et le bilan, c'est quand même un peu inquiétant, dans la mesure où l'année dernière, quand même, même à domicile, c'était 28 matchs et Zinedine Zidane n'avait perdu que 2. Or là, nous sommes déjà quand même à 4 défaites à domicile, ce qui signifie que le Real n'est pas aussi rassurant à domicile. Mais cependant, quand on regarde les derniers matchs, on se rend quand même compte qu'il y a quelque chose de cohérent qui se remet, même si le dernier match ne l'ont pas gagné. Il y a quelque chose de très cohérent qui est en
train de... Ils sont prêts à vous attaquer.
Ah non, mais attendez.
Argumenter.
Oui, c'est bien facile aussi de dire quand même que oui, le Barça, magnifique.
Allez-y. Allez-y sur le Real.
A gagné, par exemple, contre Valence, mais le même Real aussi a battu Valence, a aussi réussi d'autres exploits depuis un certain temps. Donc, moi, je me dis que lorsque j'essaie de voir que Toni Kroos revient en forme, quand j'essaie de voir que Modric, qui me paraissait fatigué, il a repris de la volonté et qu'il a même joué tout le match. Et
donc
que
match contre la Real Sociedad sera quand même un indicateur.
Oui,
rassurant.
Il est déjà, moi j'ai dit, les derniers matchs sont déjà un indicateur, comme bien évidemment aussi, il y a un indicateur, c'est que Gareth Bale a quand même été élu le joueur du mois du Real, ce qui signifie que lui qui avait disparu longtemps des radars revient également.
Alejandro.
Non, moi, j'ai les seuls indicateurs que je vois, c'est que le Real marque beaucoup moins que dans le passé, que Cristiano Ronaldo reste quand même assez largement aux abonnés absents, que Benzema apparaît vraiment par intermittence, que Bale est très
qui
décevant.
Qui est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, là?
Et que le Real prend surtout beaucoup de buts, quand même. Il en a pris 2, par exemple, le week-end dernier face à Levante. C'est quand même pas un exploit.
Moi, je regarde les résultats, les 9 derniers résultats depuis la reprise de la saison, après la trêve, et le fameux 0-3 contre le Barça. Eh bien, il y a eu 9 matchs, il y a quand même 2 défaites contre Villarreal et les Ganes en coupe. Il y a 3 résultats nuls, et donc seulement 4 victoires. Alors effectivement, il y a un 7-1 contre la Corogne. Bon, ok, mais sinon, ce Real-là, il est poussif. On sait qu'il y a du talent et pour le moment, on ne voit pas de façon régulière.
Ça démarrait, j'ajoute juste une chose. Quand toi, tu félicites le Barça qui boit tout, mais qui se fait tabasser quand même par Espagnol de Barcelone, tu trouves que non, c'est une somptueuse équipe ou bien quand ils font un match nul. Mais quand maintenant,
le Real vient
marquer
PSG.
5, tu dis non, c'est possible. Après avoir marqué 7 buts ou 5, le Real est en train de revenir et vous allez le voir.
Alors, le Real est en train de revenir, mais peut-être que le Paris Saint-Germain est déjà là.
Le Paris Saint-Germain est là. Le seul problème du Paris Saint-Germain par rapport au Real, c'est que il a pas d'opposition. On le voit dans le championnat de France, il est largement au-dessus, largement devant. C'est pas en les matchs de Coupe de France.
En allant à Toulouse, non.
Oui, mais même Toulouse est une équipe qui peine à se sortir de la zone rouge.
Il vient de s'entrer d'entraîneur.
Donc c'est un club auquel on prête des joueurs. Adrien Rabiot, il avait fait une demi-saison tout à fait intéressante. Donc voilà, c'est pas un test important pour le Paris Saint-Germain, tous ces matchs qu'il a eu ces derniers temps, si ce n'est l'enchaînement qui leur a permis de rester dans le rythme.
Alejandro, comment vous les voyez, vous, ces Parisiens?
Moi, je les vois très bien. Peut-être ils attendent depuis trop longtemps ce rendez-vous. Donc, la seule inquiétude, c'est qu'à force d'attendre, ils ne soient pas là le jour où il faut être. Mais sinon, je ne vois pas comment, en voyant beaucoup jouer les deux équipes, comment ce PSG pourrait avoir des problèmes face à un Real Madrid aussi décevant.
Rémi, quel est votre pronostic sur le match?
Que le Real va gagner par 2-0.
Alejandro?
Même résultat, mais à l'inverse.
Et vous, Xavier?
Non, je pense qu'il y aura un résultat nul, un partout.
Mathéo, vous voyez quoi, vous?
Moi, je pense que Paris Saint-Germain peut absolument faire la bonne affaire et faire un exploit, parce que ça dépendra aussi
gagner
des petites...
Gagner à Madrid?
Ouais, des petites bagarres entre Neymar et Cavani. Nous, les Italiens, ça nous amuse énormément de lire ces choses-là. Non, c'est moi qui fais le pénalty. Non, c'est toi, non. Ouais, ta sœur.
On s'en amuse aussi beaucoup. Clément, vous avez un pronostic pour le match?
Moi, je vise plutôt 2-1 pour le Paris Saint-Germain.
Bon, et ben voilà, on vérifiera tout ça, évidemment, le 14 au soir.
Carton jaune!
Un carton, là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge!
Carton rouge!
Dans la confusion.
Carton vert!
Extraordinaire!
Rien à dire!
Les cartons, les couleurs de ces cartons. Clément Benchetrit, quel est votre carton?
Mon carton, c'est un carton jaune contre l'équipe de Chelsea. Parce qu'ils ont perdu 2 matchs donc face à Bournemouth et Watford, qui sont pas des équipes très hautes dans le classement. Et donc voilà, c'est après ils peuvent toujours remonter. Donc ils auront 2 matchs contre Manchester pour remonter dans le classement.
Et quel
ils
sont Manchester pas, Manchester United.
Les deux.
Les deux.
Oui. Mmh. Et aussi, ils sont pas très loin dans le classement. Donc à un point de Liverpool et à 6 points de Manchester United. Donc ils peuvent toujours remonter.
Toujours être dans le Big Four. Rémi, votre carton.
Il m'a fait donner le carton rouge. Rouge à compter.
Bah, vous voyez, vous êtes dans la même tonalité.
Mais c'est pas possible. Il ne va pas monter là. Et de toutes les façons, quand on voit ce que Comté propose. Attendez, quand on regarde là, ces 5 dernières semaines, ça ne va pas. Et ce Comté là se moquait de Mourinho et tout, qui lui, quand il était arrivé, avait aligné 2 Ligues des Champions et tout et tout. Donc aujourd'hui, on se rend compte que Comté n'a pas de système de jeu, que rien ne
Mourinho,
va.
Mourinho, il a
alors,
jamais gagné
attendez,
la Ligue des Champions.
Attendez, mais il avait quand même aligné deux ligues des deux premières ligues, voulais-je dire deux premières ligues en 2005 et en 2006 et quand il est revenu il a remporté
arrêtez
encore
de faire la
donc
de
à une certaine période laissons les autres qu'on ne dise plus maintenant aujourd'hui que Conte est un très très grand entraîneur et comme le dit un proverbe africain, il ne faut jamais se moquer du crocodile tant qu'on n'a pas traversé le fleuve.
De toute façon, dès qu'on touche à Mourinho, évidemment. Mathéo, vous avez un carton?
Oui, un carton rouge grand comme une maison à la Fédération et la Ligue italienne de football, incapable de nommer un président. On est en train de faire rire toute l'Europe. C'est vraiment une honte. Et un carton vert, passez-moi ce petit
Il en met pour un mois, en fait, jusqu'à ce qu'il revienne la prochaine fois.
Voilà. À mon ami Vincenzo Montella, qui est arrivé en finale avec Séville, je suis extrêmement content pour lui. C'est un entraîneur qui pouvait faire... et qui fera des énormes choses en Espagne.
Xavier. Ouais, rapidement, donc un carton jaune à quelqu'un que j'aime bien, Antoine Griezmann, parce qu'il est actuellement pas très performant, nettement moins que par le passé. En 2014-2015, il marquait toutes les 112 minutes. Là, il marque plus que tous les 227 minutes. Il a probablement son transfert en tête et l'équipe de France, mais il faudrait mieux qu'il soit performant sur le terrain.
On espère. Alejandro.
Allez, un carton vert pour un entraîneur dont on parle peu et qui mériterait qu'on en parle plus, c'est Ernesto Valverde. Qui fait aujourd'hui ses 54 ans et qui est en train de transformer Barcelone en une machine à gagner.
Le carton de Radio Foot International, c'est pour vous, Marteo, un cartellino verde, c'est comme ça qu'on dirait, parce que Benedetto et Giuseppe et Panini n'y avaient peut-être pas pensé, mais il y a des clubs amateurs, notamment dans la région de Toulon, qui ont lancé leurs propres albums de figurines avec que des joueurs amateurs du club Jeunesse Sportive de Mourillon, par exemple.
Mourillon,
ou alors
oui, c'est là où je suis né.
Saint-Mandré ou alors le reveste. Merci à tous, à la semaine prochaine. Tous les